On a l'impression qu'à chaque fois, Vivaldi tombe juste. C'est un peu comme Haydn, d'ailleurs. Quel que soit l'instrument pour lequel il travaille, il comprend l'essence. Il arrive vraiment à trouver dans chaque instrument quelles sont ses possibilités expressives. Avec le violoncelle, je crois qu'il arrive le mieux à exprimer cette espèce de monotonie quotidienne dont Vivaldi est le spécialiste. Cette monotonie qui finit par avoir une beauté, qui n'est pas une monotonie ennuyeuse. C'est la beauté de la vie de tous les jours dans la grisaille vénitienne. Et oui, on peut dire que c'est un compositeur de musique de film, c'est-à-dire qu'il arrive à donner à l'auditeur tout de suite un canevas pour que l'auditeur se voit son propre film, ses propres images. Bon, évidemment, dans les quatre saisons, c'est l'apothéose de cela, mais je crois que c'est ce qui contribue à faire de Vivaldi un compositeur aussi populaire. C'est que dans notre société qui fonctionne par l'image avant le son, eh bien, l'auditeur se retrouve assez vite dans à la fois cette évasion et en même temps cette clarté de caractérisation très rapide. Et on le sent dans le début de chaque tutti.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Vivaldi, compositeur de musique de film, c'est le gambiste et violoncelliste Christophe Coin qui le dit avec un naturel parfait. Nous, on n'aurait pas osé, mais finalement, à la réflexion, cela semble assez évident. Une musique chatoyante qui passe de la mélancolie la plus déchirante à la joie la plus débridée, comme si elle quittait une ruelle sombre pour déboucher sur une piazza, baignée de soleil. Venise est ainsi, toujours hésitante entre ombre et lumière, parcourue de masques somptueux, dont parfois les capes s'ouvrent sur un squelette. Vivaldi, le prêtre roux, buveur et joueur, était capable, avec une seule poignée de notes, de nous ouvrir le cœur en deux. Vivaldi, lui-même violoniste virtuose, est le compositeur qui a le plus écrit pour le violoncelle. Sans doute parce qu'au nord de la Sérénissime, à Udine, se tenaient les ateliers les plus réputés où se fabriquaient les meilleurs instruments à cordes du monde. Et aussi parce que le violoncelle, parmi tous, est celui qui s'approche le plus de la voix humaine, pour laquelle le Vénitien a écrit de si belles pages. Ophélie Gaillard, qui, elle aussi, aime tant les voix, partage sa vie, comme elle le dit joliment, avec un violoncelle Gofrilleur d'exception, sorti en 1737 d'un de ses ateliers, alors que Vivaldi avait encore 5 ans à vivre. En 2006, elle avait enregistré un premier disque consacré à Vivaldi avec son ensemble Pulcinella, qu'elle venait de constituer. Et la voici de retour sur la lagune, avec ses habituels complices, sur un magnifique double CD intitulé « I colori dell'ombra », paru en mars chez Aparté. Bonsoir Ophélie Gaillard.
Bonsoir.
Ce double CD consacré au concerto pour violoncelle de Vivaldi, il est sorti le 20 mars. C'est-à-dire que voilà, il y avait toute une tournée prévue pour accompagner la sortie de ce CD. Évidemment, confinement oblige, vous redémarrez une saison nouvelle sans concert consacré à ce Vivaldi. Donc nous allons en parler ici pour donner envie à tous ceux qui nous écoutent de se replonger dans la musique de Vivaldi. Comment est-ce que vous avez vécu, vous qui aimez tant aller au-devant de votre public, de faire des concerts, d'échanger avec vos élèves aussi, comment avez-vous vécu cet enfermement ?
C'était une remise en question assez radicale, un peu comme quand on vous coupe les ailes soudainement, ça fait un drôle d'effet, de ne pas se retrouver quasiment tous les matins sur les routes de France et d'ailleurs, avec le violoncelle sur le dos, et puis tout d'un coup être privé de ce partage, de cet échange, de ces poils qui se hérissent quand on est au concert, aussi bien dans la salle que dans le public, de ces échanges aussi avec les étudiants qui sont tellement fructueux, parfois intense, et c'est difficile de... En plus, j'ai un enseignement qui est quand même aussi très attentif à un certain rapport au corps, à un bien-être. Alors bien sûr, on peut transformer ça en séance de yoga sur un groupe privé, ce que je me suis évidemment empressée de faire pour aussi ne pas oublier cette partie-là des êtres vivants avec lesquels je travaille, en l'occurrence les étudiants, mais bon, disons que les réseaux ont été une sorte de fenêtre ouverte qu'on a continué à pouvoir ouvrir sur ces moments, ces instants de grâce, en fait, ces instants volés à la vie quotidienne qui, tout d'un coup, prend une place démesurée. Aussi une remise en question beaucoup de nos modes de vie en tant qu'artistes pour essayer de trouver un moyen de réduire ce grand écart entre nos modes de vie très nomades et puis une volonté aussi de s'inscrire dans un territoire, de développer des choses au plus près de là où on est, au plus près de ses enfants aussi par exemple. Et donc beaucoup de questionnements en tant qu'artiste, en tant que citoyenne, ça oblige à se réinventer, ça oblige à être très créatif. Heureusement, j'ai un jardin avec un super potager en permaculture, donc c'était pour les enfants, c'était le rêve. Et puis on se dit que voilà, c'est bien de faire pousser plein de choses, quelles qu'elles soient.
Voilà, faire pousser plein de choses, y compris le bonheur d'écouter de la musique. Avant de parler donc de ce magnifique double CD Icoloride Alhambra avec vous, Ophélie Gaillard, on va y plonger tête la première, un extrait du concerto RV 405, c'est l'Allegro. Ça fait du bien, Ophélie Gaillard, c'est formidable. On suppose que lorsque vous avez travaillé sur cet enregistrement, évidemment, on ne pouvait pas prévoir. Mais aujourd'hui, l'écouter alors que le temps est si sombre, ça fait un bien. On a l'impression qu'on a des fenêtres qui s'ouvrent, alors sur la lagune, sur Venise. Vous qui êtes, comme vous le dites depuis toujours, une enfant du baroque, vous avez l'impression d'être revenue à votre langue maternelle.
Je l'ai jamais quitté, mais on la savoure d'autant plus qu'on s'en échappe en fait. Et c'est vrai que ce Vivaldi est une constante dans mon répertoire depuis mon plus jeune âge. Et avec l'ensemble Pulcinelle, là, c'est l'opus inaugural qu'on avait enregistré. C'était déjà consacré aux sonates de Vivaldi, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est vraiment un compagnon pratiquement de tous les jours. Mais alors ce concerto-là en particulier fait partie des œuvres de jeunesse qui sont jamais jouées, qu'on connaît trop peu. Et qui mettent en lumière justement cette espèce de saveur, d'énergie vitale du rythme, de la danse. Ce sont vraiment des danses. Et en même temps, déjà là, on voit que le geste qu'il déploie avec le violoncelle, qui n'est pas son instrument de prédilection, dont il ne joue pas, mais dont il a compris l'essence très particulière. Le geste est déjà très ample et le violoncelle est une espèce de respiration, de suspension dans le chant, y compris en rapport très joyeux avec l'orchestre. Et ça, j'adore, parce que c'est vraiment... et là, pour le coup, on a besoin de se voir et d'être en contact très proche pour le sentir. On a vraiment l'impression d'un jeu entre le côté très terrien, très vivant de ce rythme de l'orchestre, et en même temps le violoncelle qui s'en extrait, qui chante, qui s'échappe un peu. Moi, je pense à Johann Bourgeois quand je joue ce mouvement-là. Un des mouvements comme ça de suspension, de moment où on ne sait pas très bien quand est-ce qu'on va redescendre, mais on va finir par redescendre. Et la joie de la suspension est aussi agréable que la joie de la chute et de la retrouver avec le sol, les autres, le rythme.
D'ailleurs, effectivement, quand on connaît votre travail, Ophélie Gaillard, on se dit que Vivaldi, c'est vraiment ce qu'il y a de qui doit vous porter le plus, parce que vous venez de dire la danse. Effectivement, vous travaillez avec des danseurs. D'ailleurs, en octobre, on va vous retrouver à l'Opéra Garnier pour en accompagnement de deux danseurs étoiles. La voix humaine, le violoncelle. En fait, Vivaldi, c'est le premier pour vous dans votre panthéon très varié de compositeurs que vous interprétez. C'est celui qui vous offre en fait le plus de domaines dans lequel vous avez envie d'aller, la danse, la voix, le violoncelle.
C'est un terrain de jeu fantastique. J'ai adoré entendre la voix de mon cher maître Christophe Coin en introduction de l'émission. Il y a juste un terme dont je comprends très bien la valeur dans sa sensibilité et dans sa bouche, qui est la monotonie, mais c'est pas le mot vers lequel j'irais.
Non, c'est
pour
assez
ma part.
Surprenant d'entendre ça. Oui.
Et je trouve que ce côté justement, comme il dit, cinématographique, et donne en fait une espèce de terrain de jeu fantastique, y compris sur tout ce qui sont les couleurs, les différences de timbre de l'instrument. Il y a une espèce de chatoiement qui est évidemment très proche de cet univers pictural de Venise. Je parlerai plus de peinture que de
Turner,
que de cinéma.
En ce moment, il y a une magnifique exposition Turner qui est consacrée pratiquement exclusivement à Venise.
Alors voilà, ça c'est la Venise vue plus tardivement, une Venise qui d'ailleurs n'existe quasiment plus au 19e, mais là on est en 1730, 1720. Venise existe encore, étincelle de ses derniers feux, et est un des derniers endroits de l'Europe où la fantaisie, le délire, la déraison sont encore pratiquement la règle. Et c'est un des après, évidemment, on a déjà en France à ce moment-là tout le XVIIIe siècle qui va être envahi, et pour des choses merveilleuses d'ailleurs, par le siècle des Lumières et par cette rationalité galopante. Mais là, à Venise, on a encore un territoire où le rêve se vit au quotidien. Alors, si c'est ça la monotonie du quotidien, moi je l'embrasse tout de suite.
Alors, pas de monotonie et surtout la présence de la voix humaine. On sait que vous adorez accompagner des chanteurs, que vous les invitez régulièrement sur vos enregistrements. On va donc écouter l'une des deux sopranos, mezzo-soprano, Lucille Richardot, dans un extrait d'Andromède libérée.
Thank you.
pardon pour le chinte, mais 7 minutes, non, on ne pourrait plus parler, Ophélie Gaillard. C'est un extrait absolument sublime et la voix de Lucile Richardot nous fait un bien incroyable.
Oui, Lucile est une vraie partenaire de musique de chambre. On ne parle plus d'accompagnement en fait, on est vraiment dans un vrai partage musical avec... Évidemment, la partie soliste de violoncelle piccolo, que je joue au violoncelle piccolo, qui était tenue par Vivaldi au violon d'ailleurs, mais aussi avec tous les membres de l'orchestre. C'est comme une sorte d'écrin comme ça qui enveloppe la voix. Et puis alors elle, c'est une vénitienne, mais née dans l'âme. C'est-à-dire qu'elle a cette truculence, cet humour incroyable, cette présence au monde qui est tellement tellurique et tonitruante, et en même temps une fragilité, une douceur, une profondeur, une façon, comme dans cet air, de dire des choses très profondes avec des mots très simples. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que cet air résonne particulièrement en ce moment, puisqu'il parle de toute la thématique aussi du disque, de cette qualité de l'ombre et des ombres qui permettent en fait de faire resplendir le soleil, qui n'est jamais plus resplendissant, comme vous disiez, que quand on sort d'une rue sombre à Venise. Et on sent ça de façon très perceptive. C'est comme une sorte d'épiphanie, une lumière qui tout d'un coup resplendit parce qu'on a traversé les épreuves, l'ombre, la douleur de vivre aussi parfois. Et tout ça est dans cette musique de façon tellement plus intense que ce que je peux dire moi avec des mots.
Oui, mais c'est toujours ce qui est frappant quand on écoute du Vivaldi, c'est qu'en l'espace d'une note, on passe de la joie la plus folle à tout d'un coup une sorte de blessure au milieu même de cette joie. C'est aussi pour vous, pour ce compositeur, quelque chose qui vous invite à aller creuser, sortir des morceaux qui ne sont pas beaucoup joués, à aller chercher aussi dans ce qu'il inventait pour son école de la Pietà.
Oui, absolument. C'est un homme du théâtre. Et en fait, je trouve qu'avec les œuvres pour violoncelle, dont certaines sont vraiment très méconnues, les œuvres pour basson aussi, c'est quand même le seul compositeur de toute l'histoire de la musique et avoir écrit une centaine d'œuvres pour les basses, violoncelles et bassons, c'est fantastique. Donc on sent cet amour du théâtre, cet amour de la voix, de toutes les tessitures d'ailleurs de la voix que peut recouvrir le violoncelle, puisque, alors encore plus que le basson, il peut monter dans le suraigu et embrasser aussi bien la tessiture d'une basse profonde que d'une soprano léger. C'est peut-être aussi ça qui l'a séduit, et avec lui on va aussi dans les coulisses du théâtre, c'est-à-dire qu'on voit, on sent, c'est palpable, son amour des chanteurs, des chanteuses, des cantatrices. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui était aussi impressarionné, qui était un vrai démiurge, en fait, par rapport à toutes ces divas qui devaient être bien compliquées à gérer, beaucoup plus que Lucile Richardot. Et on sent toutes ces intrications, on sent l'artisanat. De même que quand on voit les instruments de Venise de cette époque, on voit aussi ce savoir-faire, cet artisanat, ces choses qui se fabriquent dans l'ombre d'un atelier.
Alors, on parlait justement de fabriquer pour les divas. Il y en a une que vous avez sortie de l'ombre, Ophélie Gaillard, sur ce disque. C'est Teresa. Voici un extrait du concerto RV 788. C'est le Larghetto écrit pour Teresa. Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ophélie Gaillard, vous avez trouvé, pour retrouver cet extrait, ce concerto, l'aide d'Olivier Fourré, qui a dû... Comment est-ce qu'il l'a travaillé pour vous permettre d'interpréter ce morceau qui avait quasiment disparu?
Alors Olivier Fourré, c'est vraiment un complice de longue date pour... spécifiquement pour ce répertoire vivaldien, puisqu'il en réalise une édition critique de l'intégralité de, notamment de la musique instrumentale, mais pas seulement. C'est lui aussi d'ailleurs qui avait redécouvert ce Andromeda Liberata, dont l'air qu'on vient d'entendre avec Lucie Richardot est extrait, il y a quelques années. Et il a été très précieux parce qu'il connaît vraiment les archives avec le cœur. C'est ce que j'aime chez les musicologues comme ça, inspirés. D'ailleurs, il est aussi violoniste, il joue sur le disque, il est aussi danseur. Et il a en fait retrouvé des carnets de Teresa, qui était donc une des élèves brillantes, une des pensionnaires de la Pietà, qui a gardé précieusement beaucoup de carnets avec des notes, des lettres et des partitions. Et il restait la partie d'alto, qui en l'occurrence était une petite partie de basse, qu'on appelle le bassetto, c'est-à-dire c'est l'alto qui fait la basse dans les solos du violoncelle. Et ça permet en fait de faire une sorte de travail un peu de reconstitution qui est basé sur des choses très précises historiquement et puis aussi qui laisse libre cours à la fantaisie de la personne qui réécrit, donc Olivier Fourès. Et il y a eu une très jolie anecdote sur cet enregistrement, c'est que j'ai toujours pour habitude d'improviser et de jouer des cadences, comme il y en a beaucoup d'ailleurs dans le disque, et des ornements. Et puis à la fin de ce mouvement... Pablo Valetti, premier violon, lui, quand même, tu as été fort avec la cadence, là. T'exagères pas un peu? Et en fait, la cadence, c'était une cadence de Vivaldi, qui est extraite d'un autre concerto pour violon, inédit, et qu'on avait, recyclé, on peut dire, avec Olivier Fourès. Donc, elle est même pas de moi, cette espèce de très étrange cadence, elle est de Vivaldi. Ça donne aussi une idée de la liberté qu'on peut avoir une fois qu'on connaît les codes de cette musique sur le bout des doigts.
Mais vous en parlez si bien, Ophélie Gaillard, je voulais vous demander, quel rapport vous avez même avec Venise? Est-ce que pour interpréter tout ce répertoire, il vous faut aller régulièrement à Venise, vous replonger dans cette ambiance, dans ce qu'il en reste? Évidemment, c'est pas la même.
Alors, c'est une ville qui m'a évidemment toujours fascinée. Les premières fois où je suis allée, mes parents avaient eu la bonne idée de nous emmener très petits. Ils avaient encore des poussettes à trimballer sur les ponts. C'était pas hyper pratique pour eux, je pense. Mais c'est vrai que c'est une ville, il faut y aller. En fait, il faut vivre cette expérience parce que c'est une ville qui a une capacité d'entrer en résonance avec vos états d'âme, vos humeurs. Il y a très peu de lieux comme ça au monde. Alors, si vous allez mal, faut pas y aller parce qu'on va encore plus mal. Mais par contre, c'est une caisse de résonance qui démultiplie les émotions, je trouve. Bouleversé par ce qui nous arrive.
Alors, pour le plaisir quand même, avant d'arriver au terme de cette émission avec vous, Ophélie Gaillard, un dernier extrait de ce double CD, c'est le Largo du concerto pour violon piccolo, puisqu'il ne faut pas oublier le piccolo.
Thank you.
ici, Ophélie Gaillard, pour ce Largo, joué avec un violoncelle piccolo, contrairement à votre immense Gofrilla qui vous attend gentiment dans un coin du studio. Là, on est carrément dans le domaine de l'ombre absolue. C'est vraiment une partie très sombre.
Pour moi, c'est plus de la tendresse et une intimité, un recueillement. J'étais frappée il y a quelque temps, je parlais de recueillement à une jeune élève qui me demandait ce que c'était que le recueillement.
Au ciel.
Mais une toute petite, hein, qui connaissait pas ce mot. Je me suis dit, oh, dommage.
C'est vrai que l'époque n'est guère au recueillement.
Et c'est plus ça enfin, il y a un côté très apaisant aussi de cette musique. Puis alors là, en plus, on a choisi une instrumentation avec un continuo qui fait intervenir le cymbalum, qui est un instrument qui faisait partie des instruments, on le sait, répertoriés, utilisés à la Pietà pour le continuo, et qui évidemment évoque tout de suite l'Orient. Venise est encore une des grandes portes de l'Orient au début du XVIIIe siècle, et elle a construit tout son développement économique et artistique autour de cette double polarité vers Orient-Occident. Et tout de suite, ça donne une profondeur de champ, je trouve, ça donne une nostalgie qui est très forte. Mais la nostalgie peut être heureuse. Hier soir, je faisais la générale de ce spectacle à Garnier et on danse. Alors, c'est pas l'accompagnement, c'est vraiment un duo entre les suites de Bach et puis Hugo Marchand, qui est un fantastique danseur étoile. Et on était un peu trop, peut-être sombre, justement, dans l'ombre au début sur une pièce de Bach. Et je lui ai dit, mais en fait, on va avoir la nostalgie heureuse pour ce début. Et puis, on a joué ensemble.
On comprend bien ce que vous voulez dire.
En pensant à ça. Et voilà, j'ai vu tout de suite la lumière dans son regard. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est partir de ces réminiscences qui, en fait, finalement, vous bercent et vous rendent heureux pour ensuite déployer beaucoup de joie.
Alors, je pense que les auditeurs ont dû saisir dans les quelques morceaux que nous avons pu passer ce soir la résonance très particulière qu'il y a sur ce CD, sur cet enregistrement. On le sait, Ophélie Gaillard, quand on vous suit depuis quelque temps, que à chaque fois que vous enregistrez un disque, vous choisissez, il vous faut un endroit particulier. C'est Nicolas Bartholomé, votre directeur artistique, qui a le choix de chercher l'endroit idéal. Là, c'était l'endroit idéal pour ce Vivaldi. Et c'était l'église évangélique luthérienne Saint-Pierre à Paris.
Oui, c'est une petite église modeste, tout en bois, qui est très dans laquelle on peut vraiment se sentir comme dans un écrin, qui sonne très très bien pour la voix et qui rend aussi c'est assez complexe d'enregistrer le violoncelle, qui est à la fois très aérien, par exemple, pour ce qui est du piccolo, qui vraiment touche à la tessiture du violon, donc qui chante vraiment presque dans les aigus, et en même temps qui a un coffre, enfin une profondeur de résonance dans les basses très importante. Et en fait, l'espace dans lequel se déploie le son est tellement, tellement important par rapport à la profondeur des émotions qu'on peut justement faire ressentir. Et quand on est face à un micro, cet espace, cette profondeur sont encore plus importants que quand on est au concert, je trouve. Il y a vraiment une sorte de... Si on veut avoir de la chair de poule et vraiment que l'émission se transmette à travers toutes ces machines fantastiques, il faut bien que l'espace dans lequel on fait rayonner le son soit un peu magique. C'est comme une sorte de convocation un peu magique.
Je me souviens la dernière fois qu'on avait parlé ensemble de ce que ça représentait de faire vivre un violoncelle en scène ou en enregistrement. Vous m'aviez dit, il y a à la fois l'esprit qui s'envole et puis avoir une matérialité, les pieds bien ancrés. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui le dit très bien, c'est Paul Tortelier.
Il faut avoir les pieds sur terre. On le voyait très bien quand Casals jouait. Il avait les pieds sur terre, il était dans les réalités, mais c'était des mécanismes presque automatiques, ces choses réelles. Sa façon d'assurer, vous savez que nous jouons sur la corde raide, les guitaristes ne s'en rendent pas compte, on dit une guitare, un violoncelle, qu'est-ce que je joue de la guitare? On ne se rend pas compte de la différence de difficulté pour la main gauche entre une guitare et un violoncelle. Parce qu'une guitare, vous avez des marques, vous avez des petits barreaux qui délimitent, vous ne pouvez pas jouer faux, la main gauche. Et nous, malheureux, C'est une épée de Damoclès. Nous sommes à un millimètre près.
Millième de millimètre.
Si le doigt tremble, se déplace, la note est fausse et c'est tout de suite désagréable. Il est très difficile d'ailleurs d'arriver à surmonter cette angoisse quand on joue.
Vous l'avez encore cette angoisse ?
Nous l'avons toute la vie. Toute la vie. J'arrive à surmonter ça, à me mettre dans un état, ce qu'on appelle un état de grâce, à me dire, arrivera ce qui arrivera. Je veux me réjouir de ce que je fais, parce que je suis là pour donner la joie, et ça doit partir de moi. Je dois être dans la joie moi-même.
Ophélie Gaillard, un violoncelliste, en fait, c'est un équilibriste, un funambule, il marche sur un fil tout le temps.
J'adore cet archive de Tortelier, j'adore aussi ce texte de Genet qui est si beau sur le funambule, et qui est une métaphore incroyable de notre vie, sauf qu'on a 4 cordes, ou 5 parfois, et pas une seule. Mais oui, il y a cette idée d'état de grâce qu'il faut trouver, et puis en même temps d'ancrage dans le sol. D'ailleurs, Casals ne faisait pas que taper des pieds, il grognait aussi. En fait, on s'est retrouvés hier, toujours avec ce fameux Hugo Marchand, qui lui, parfois aussi, toute étoile qu'il est, grogne en scène. Et il y a cette ce pouvoir de la terre qu'on convoque à chaque fois, et en même temps... cet aspect de funambule, mais je crois qu'on est tous des funambules dans la vie, c'est pour ça qu'on se rejoint.
Et voilà, ça sera le mot de la fin, très joli mot de la fin d'ailleurs. Donc je rappelle la parution retardée, enfin qui est là maintenant, vous pouvez vous le procurer, ce double CD Vivaldi I colori d'Alhambra paru chez Aparté. Et puis on retrouve alors Ophélie Gaillard en live, c'est en octobre, ça a l'air absolument formidable, ça se passe à l'Opéra Garnier avec le danseur étoile Hugo Marchand et la danseuse étoile Seun Park. Voilà, tout le mois d'octobre, regardez sur le site, vous aurez les dates. Merci à vous, Ophélie Gaillard.
Merci.
Et bonne route, et continuez à nous enchanter.
Merci.